15h, 16h, son rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h avec le docteur Jimmy Mohamed. Chaque jour pendant une heure, nous répondons à vos interrogations sur les sujets de santé qui vous préoccupent. D'ailleurs, il est là dans le studio avec moi, toujours à bonne distance bien sûr. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à notre posture. À cause du confinement, de nombreux salariés sont passés, toujours pour certains, en télétravail. Mais être des heures sur l'ordinateur chez soi avec un mobilier pas très adapté, cela peut engendrer des douleurs, surtout au niveau du dos ou de la nuque. Et puis de toute façon, bien se tenir pour éviter les troubles musculo-squelettiques, c'est tout un art, ça s'apprend. Alors pour en parler, nous accueillerons Olivier Girard, il est ergonome et posturologue. Et tout ça devrait vous intéresser car 80% de la population active a régulièrement mal au dos, à la nuque ou aux épaules. Ensuite, avec le docteur Jimmy Mohamed, nous répondrons à vos questions, mais celles qui concernent désormais vos petits et gros bobos du quotidien. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de fantasmes, mais de fantasmes au masculin.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Mais avant cela, pour ouvrir votre magazine santé, nous allons quand même faire un rapide point coronavirus. Et pour cela, nous accueillons en studio, vous êtes notre premier invité à nouveau à nos côtés, à bonne distance aussi. C'est vous, professeur Nicolas Danchin, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Ravi de vous recevoir, vous êtes cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Et avec vous, on voulait revenir sur cet effet collatéral de l'épidémie de coronavirus, à savoir la baisse très importante des hospitalisations pour infarctus. On va en parler des chiffres, mais vous, clairement, en tant que cardiologue, pendant le confinement surtout, vous avez, assisté à quelque chose de complètement inédit.
Alors oui, c'était quelque chose de vraiment étonnant, c'est-à-dire qu'on a tous eu le sentiment qu'on recevait beaucoup moins de patients victimes d'infarctus par rapport aux chiffres qu'on a habituellement. Et ça n'a pas touché que l'hôpital Georges Pompidou, ça n'a pas touché que Paris, ça n'a pas touché que la France, c'était vraiment un phénomène mondial. Quand on discutait avec nos collègues ailleurs en Europe, au Canada, aux États-Unis, même chose. Donc c'est un phénomène qui était vraiment très particulier, qu'on a essayé de quantifier en France pour voir ce qu'il en était vraiment.
Alors justement, les chiffres précis de cette baisse, vous les avez, puisque vous avez mené une enquête très intéressante. Expliquez-nous de quoi il s'agit, est-ce que finalement il est ressorti de vos travaux?
Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a un réseau de services hospitaliers qui reçoivent des patients qui ont un infarctus du myocarde. Et on a regardé, ce réseau est réparti sur tout le territoire métropolitain, et on a regardé tout simplement les chiffres des nombres d'infarctus qu'on avait eu dans les 4 semaines qui ont précédé le confinement, et puis dans les 4 semaines qui ont suivi le début de la période de confinement. Et ce qu'on a constaté là, c'est que globalement, il y avait un chiffre assez constant d'une semaine à l'autre pendant les 4 semaines qui précédaient le confinement, et puis brutalement, juste après le début du confinement, et pendant les 4 semaines qui suivaient, un chiffre assez constant également, mais 30% plus bas en moyenne que ce qu'on avait dans les 4 semaines précédentes.
Docteur Jimmy Mohamed.
Donc une baisse de 30%, mais où étaient ces malades? Est-ce qu'ils étaient malades? Ou finalement, est-ce qu'ils allaient mieux et qu'ils n'avaient pas fait d'infarctus? Ou des malades qui se sont ignorés et qui peut-être sont décédés au domicile?
Alors c'est la vraie question pour laquelle personne à ma connaissance n'a de réponse absolument certaine. Je vais vous donner un sentiment qui est un peu étayé malgré tout. Mon sentiment, c'est que dans la majorité des cas, c'est parce que les gens ont rechigné ou ont eu peur de venir à l'hôpital. Pourquoi je dis ça? Parce que les formes les moins graves d'infarctus, celles qui sont le moins douloureuses, ont baissé plus que les formes les plus graves qui sont plus douloureuses. Et donc ça, c'est un élément quand même. De même, il y a eu plus de baisses chez les patients les plus âgés, de plus de 80 ans. Et je pense que ce sont eux qui avaient probablement le plus peur de venir à l'hôpital dans ces circonstances. Mais il n'y a peut-être pas que ça. Il y a peut-être une baisse réelle de la survenue des infarctus.
Donc des infarctus qui n'ont pas eu lieu.
Qui n'ont pas eu lieu, qui ne se sont pas déclenchés au moment où, normalement, si j'ose dire, ils se seraient déclenchés. Et ça pourrait être lié au confinement, puisque les gens ont eu une activité physique beaucoup plus réduite, évidemment, éventuellement un stress professionnel réduit également. On peut imaginer également que la pollution soit intervenu. Quand j'ai regardé les statistiques de l'Île-de-France sur Air Paris juste après le confinement, et on voit qu'en fait, l'effet sur la pollution et les microparticules qui sont liées à la survenue d'infarctus est très rapide après le début du confinement. Donc peut-être que tout ça est allé dans le même sens pour expliquer cette baisse. Un autre élément encore, c'est que j'ai un de mes collègues, Éloi Marijon, qui a fait une enquête sur les arrêts cardiaques à domicile et qui a constaté que dans les 15 jours qui ont suivi le début du confinement, il y avait deux fois plus d'arrêts cardiaques qu'à l'habitude. Et puis au bout de 15 jours, c'est revenu à la normale. Alors, peut-être qu'effectivement, ça a participé aussi, tout ça.
Et cette baisse d'infarctus, donc de 30% en milieu hospitalier, est-ce qu'on la voit vraiment dans toutes les régions françaises ou est-ce que, par exemple, Paris-Île-de-France, il y en a beaucoup moins? Enfin, comment ça se répartit?
Alors, ça, on a constaté ça partout dans le réseau. On avait l'hôpital de Nice, l'hôpital de Nîmes, Bordeaux, Toulouse, etc. Donc, il n'y avait pas que des hôpitaux de la région parisienne. Et quelle que soit la prévalence, c'est-à-dire la fréquence des atteintes par Covid, des hospitalisations par Covid dans la région, la baisse était à peu près équivalente d'une région à l'autre.
Jimmy ?
Et si on parle des petits infarctus, vous devriez les revoir arriver petit à petit, parce qu'un infarctus qui n'est pas traité et qui reste à la maison, bah, il va peut-être survivre, mais il va évoluer vers de l'insuffisance cardiaque. Vous ne craignez pas d'avoir un phénomène de rattrapage en voyant des gens beaucoup plus malades, puisque finalement, ils n'ont pas consulté?
Alors, c'est la question qui se pose, effectivement. Ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas constaté ce phénomène de rattrapage vers la troisième, quatrième semaine. Donc là, on va essayer de poursuivre notre enquête sur les quatre semaines suivantes, donc la fin du confinement, le deuxième mois du confinement, et puis le mois qui suit la fin du confinement, pour voir si effectivement on observe un phénomène de ce type ou non. Je crois qu'à l'heure actuelle, ça reste en partie un mystère, cette baisse des infarctus. Et il faut dire aussi que ça n'a pas touché que le cœur. Nos collègues neurologues ont observé la même chose avec les accidents vasculaires cérébraux. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant.
Hein, c'est ça qui est étonnant. Oui. C'est pareil, ils donnent à peu près le même chiffre.
Et hors micro tout à l'heure, Jimmy Mohamed nous disait que pour SOS Médecins, il y avait aussi une baisse des...
On se demandait où étaient les malades hors Covid. Ouais. On ne les a pas tout à fait retrouvés d'ailleurs. On se demande où, s'ils vont bien, tant mieux, mais s'ils ne vont pas bien, qu'ils n'hésitent pas à consulter.
On va en apprendre encore des choses, je pense, sur ce Covid. C'est les conséquences qu'on en a eues. Professeur Danchin, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ça y est, par contre, alors il n'y a pas de vague apparemment d'arrivée massive, mais on est revenu à la normale, le nombre d'infarctus est constant et on est retourné comme avant?
Alors, c'est le sentiment que j'ai. Actuellement, en tout cas dans notre hôpital, on reçoit un nombre d'infarctus classique, si je puis dire. Il faudra voir avec l'enquête nationale pour vraiment chiffrer tout ça. Certains de mes collègues ont eu le sentiment qu'il y avait un rebond à un moment donné, mais pas tous. Donc, vraiment, ça nécessite d'être quantifié véritablement.
Et pour terminer très rapidement, rappelez-nous quels sont les signes justement qui doivent faire penser qu'on fait un infarctus. On vous a sous la main, on en profite. Qu'est-ce qui doit nous pousser à consulter absolument?
Ne faites pas d'infarctus sous prétexte que je suis là. Le signe le plus classique, c'est la douleur au milieu de la poitrine, qui est une douleur assez particulière parce que c'est une douleur qui fait comme un poids sur la poitrine, qui serre la poitrine et qui est souvent assez angoissante. Les gens ont peur parce que c'est... Alors on dit un étau, mais les gens nous décrivent ça souvent comme un gros poids sur la poitrine. Ça, c'est le signe le plus fréquent. Et puis il y a d'autres signes qu'on retrouve moins souvent, qui sont des essoufflements très brutaux, des choses comme ça.
Très bien. Mais merci beaucoup, professeur Danchin, pour toutes ces précisions. Merci encore d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Europe. Dans quelques minutes, nous allons accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est Olivier Girard, il est ergonome et posturologue. Il va tout nous expliquer sur l'art de la posture, évidemment, particulièrement pour ceux qui sont encore en télétravail. Tout ça, c'est dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors tout de suite, nous accueillons en ligne notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Olivier Girard. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors vous êtes ergonome et posturologue. Vous êtes aussi l'auteur du livre Plein le dos, le manuel de la posture, dont vous étiez déjà venu nous parler il y a quelques mois dans cette émission. Donc un livre publié aux éditions Favre. Olivier, cette épidémie de coronavirus et donc le télétravail qui en a découlé pour beaucoup de salariés. Le résultat, vous étiez déjà aussi venu nous en parler, mais c'est une autre épidémie, celle des troubles musculo-squelettiques. Vous entendez beaucoup de plaintes déjà ?
Oui, ou le renforcement d'une épidémie existante, disons. Mais effectivement, j'allais dire, dans un premier temps, les gens ont été la tête sous l'eau à essayer de gérer leurs affaires. Donc non, on n'en a pas entendu beaucoup parler. Par contre, c'est venu au bout de quelques semaines. C'est-à-dire qu'au bout de quelques semaines, les gens ont commencé à se plaindre à leur employeur, qui sont revenus vers nous. Et puis là, il y a toute une mécanique de webinaires et de conseils à distance qui s'est enclenchée.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour télétravailler dans de bonnes conditions, sans s'abîmer physiquement, ça se fait en 6 étapes. Étape 1, choisir son siège. Expliquez-nous.
Alors, je pars du principe qu'au bout de 3 interviews, vous savez comment s'asseoir. Juste en une phrase, ça veut dire être sur les os des fesses contre le dossier, contre le support lombaire, hein, donc le bassin stable. Puis effectivement, on va choisir le siège au vu de ça. Le siège, il ne doit pas être trop bas, comme votre canapé. Il ne doit pas être trop profond, comme votre canapé non plus. Il ne doit pas être trop dur, parce que sinon, vous ne resterez jamais assis sur les os des fesses. Et puis, il doit y avoir un truc pour tenir votre ceinture, ce qu'on appelle un support lombaire. Mmh. Vous voyez, le tabouret de barre, par exemple.
C'est pas bon, il n'y a pas de support.
Il n'est pas trop bas, il n'est pas trop dur, mais il n'y a pas de support. Mmh. Et donc, finalement, ce siège que vous avez choisi au travers de ces 4 critères, bah, il va ressembler de près ou de loin à une chaise de cuisine. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, ça va être de faire du tuning de siège, si je peux dire.
Maintenant, on passe au bricolage.
Voilà. Voilà. C'est un truc que j'aime bien, ça. Le bricolage, si vous voulez, ça va être principalement faire 2 choses. Ça va être assouplir l'assise, si c'est typiquement une assise en bois, pour que vous puissiez tenir longtemps, en faisant attention à ce que, en fonction du coussin que vous prenez, ça ne devienne pas glissant. Vous voyez, si vous prenez un coussin très épais, votre bassin va partir vers l'avant. Mmh. Donc un coussin plutôt fin. Et puis surtout un support lombaire. Donc on met un coussin lombaire, on roule une serviette, on fait quelque chose, mais on essaye de tenir la ceinture.
Bon, Jimmy, là, il est assis sur une fesse, il a le bras de côté, il a la chaise tordue, vous aimeriez pas du tout. Jimmy, à vous.
Je suis qu'à moitié étonné, mais...
Eh oui. En tout cas, je suis plutôt bon en maths. Après l'étape 2 vient l'étape numéro 3, si je dis pas de bêtises. Et donc là, il faut choisir une bonne table de travail. Comment est-ce qu'on fait?
Bravo, Jimmy. Alors, là, si vous voulez, pour 90% de l'humanité, la bonne table de travail, elle va avoir une hauteur entre 68 et 76 cm.
C'est précis.
Je ne vais pas dire 76. Et si vous voulez, ça veut dire que quand on est à 76, on est quand même très grand. Et la plupart des tables de salon, elles sont précisément aux alentours de 75-76. Donc, souvent, la table que vous avez, une table, c'est une bête planche sur 4 pieds, hein, mais il faut encore qu'elle soit à la bonne hauteur. Et souvent, celle qu'on va trouver à la maison va être trop haute. Mmh. Et c'est là où on va devoir faire peut-être un retour à l'étape 2, qui est de se dire, il faut que je rehausse le siège.
Ah oui, c'est ça.
Pour me retrouver avec un bureau qui est plus ou moins à la hauteur de mes coudes. Mmh.
Et puis ma hauteur, ce n'est pas la hauteur de mon mari, ni la hauteur de mon fils. Si tout le monde télétravaille au même endroit, il va falloir adapter chaque assise pour chaque personne. Étape 4.
C'est la joie de télétravailler en famille. Ouais.
C'est ça. Étape 4, Olivier Girard, il faut protéger sa nuque. Comment on fait pour protéger sa nuque en télétravail?
On la protège en 2 endroits. On la protège d'une part en allant chercher clavier souris juste sous les doigts. C'est-à-dire que je ne veux pas voir la souris qui se balade justement du côté de votre mari. Elle doit être là où vos doigts sont quand vous avez les coudes le long du corps. Mmh. Et puis, donc ça, c'est toute la partie épaule. Puis, par rapport à la partie nuque, c'est tout ce qui touche à la hauteur des écrans. Rappelez-vous comment vous êtes sur votre téléphone portable. La nuque très fléchie, ben, ça, c'est un risque pour la nuque. Donc, on va soit rehausser l'ordinateur portable avec quelques bouquins, soit mettre un écran séparé. Et à l'évidence, si on a rehaussé l'ordinateur portable, on est bien obligé d'avoir un clavier et une souris séparés. Mmh.
Jimmy ?
Étape 5 et 6, je pense qu'elles sont complémentaires. Réorganiser son temps de travail, peut-être faire des pauses, et puis surtout, si on fait des pauses, en profiter pour pratiquer une activité physique ?
Oui, en fait, les 4 premières étapes sont vraiment des étapes biomécaniques. On s'assure que vous êtes bien assis. Mais même bien assis, vous ne pouvez pas rester l'éternité. Et donc, il va falloir organiser des pauses. Les pauses dont on parle à l'étape 5, elles vont être d'autant plus fréquentes que votre posture est sous-optimale. Si vous avez réussi à faire un super bon boulot, vous pouvez être assis, mettons, à peu près pendant une demi-heure sans avoir besoin de vous lever. Mm-hmm. Au bout d'une demi-heure, c'est quand même recommandé. Si vous avez fait de votre mieux, mais que c'est pas top, on peut peut-être descendre même à un quart d'heure ou quelque chose comme
Oui, se lever tous les quarts d'heure et marcher un peu, quoi, c'est ça?
Oui. Ce qui veut pas dire qu'on travaille plus. Là, au moment où vous parliez, je suis en train de me lever. Je fais 3 pas, je suis toujours en interview avec vous, donc je travaille toujours.
Alors moi, je peux pas me lever parce qu'il faut que je reste à côté du micro, mais quand je vous ai téléphoné l'autre jour, tous les coups de fil, on peut les faire en marchant, ça, faut pas l'oublier.
Exactement, ouais. Exactement.
Merci beaucoup Olivier Girard, vous restez bien en ligne avec nous, on fait que commencer cet entretien, on vous retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à parler du télétravail et de son impact, et peut-être même du télétravail de façon durable. De nombreuses sociétés y ont finalement trouvé leur compte pendant le confinement et songent à le pérenniser à moyen ou long terme. Mais alors là, attention, quelles sont les conditions indispensables que les salariés doivent exiger si cela peut durer pour eux, pour que leur organisme ne souffre pas trop? On en parle juste après, à tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous
15h-16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus, évidemment, à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et puis, il est toujours en ligne avec nous, c'est vous, Olivier Girard. Vous êtes ergonome et posturologue. Vous êtes aussi l'auteur du livre Plein le dos, le manuel de la posture, publié aux éditions Favre. Alors, Olivier, on a parlé tout à l'heure des conditions optimales de télétravail, en tout cas, ce qu'on peut faire au mieux chez soi. Néanmoins, c'est quelque chose qui va devenir peut-être durable. Il y a beaucoup de sociétés qui se sont finalement rendues compte que le télétravail, c'est pas si mal. Les salariés sont très productifs, ils passent pas des heures dans les transports. Bref, certains se disent pourquoi ne pas pérenniser la chose, mais là vous dites, vous, attention, je crois, c'est une chose de le mettre en place en urgence, c'est pas pareil de l'installer de façon durable.
Exactement, l'INRS a dit à un très juste titre il y a quelques semaines qu'il ne faut pas confondre travail en confinement et télétravail, c'est-à-dire télétravail étant une pratique un peu plus pérennisée. Pour la faire simple, si vous voulez, on a un peu mis le code du travail entre parenthèses les trois derniers mois. Et ce code de travail, il précise notamment que, ben, que vous soyez chez vous, à la maison, au travail ou au bureau, au travail, l'employeur est responsable d'assurer que vous travaillez dans des conditions adéquates. Et ben, ça n'a pas été le cas ces derniers temps. Donc, si vous voulez, il y a plein d'avantages au télétravail sur lesquels on reviendra le cas échéant, mais il ne faut pas oublier que ça reste un lieu de travail, qu'un lieu de travail a des conditions à remplir et que aucun employé ne peut dédouaner l'employeur de sa responsabilité en matière de santé au travail. Donc, on va arriver à des discussions très intéressantes sur comment on s'assure que les gens ne se cassent pas quand ils sont à la maison.
Jimmy ?
Vous l'avez dit, on a vécu des conditions assez extraordinaires durant trois mois avec des conditions de travail un peu sur le mode dégradé. Mais comment faire justement ? Quelles sont les conditions indispensables pour du télétravail de façon pérenne et puis qu'on pourrait mettre en place d'ici quelques temps ?
Il y a une dizaine d'années, j'étais au cœur des institutions européennes dans le projet qui cherchait à mettre en place le télétravail là-dedans. Puis on avait établi 10 règles d'or, et si vous voulez, grosso modo, les règles d'or, c'était que d'une part, il faut de la formation avant de faire du télétravail. D'autre part, il faut les mêmes conditions de travail qu'au bureau. Donc, j'étais à l'Office européen des brevets, et l'Office européen des brevets avait envoyé un bureau, une chaise, un écran, etc. à tout le monde.
Ah oui, donc ils doivent fournir ailleurs, un siège et une table de qualité, quoi. Enfin, en tout cas,
c'était la recommandation qu'on avait faite à l'époque et on l'avait appliquée. Et puis, il y a tout le problème de la visite de conseil, stage d'inspection des conditions de travail. Là, c'est le domicile privé. Vous pouvez pas faire n'importe quoi. Donc, nos recommandations, c'était de dire, bon, écoute, il faut que l'employé puisse bénéficier de conseils à domicile s'il le souhaite, mais l'employeur doit respecter sa vie privée. Ce que j'ai mis en place en Suisse, c'est un petit peu un intermédiaire, c'est des consultations en vidéo qui permettent de rentrer chez les gens sans rentrer chez les gens, vous voyez.
Et vous lui dites, là, tu peux t'installer, là, non, là, ça va, ce siège-là, c'est pas mal, sinon tu fais ci, vous faites du conseil à distance, comme ça.
Ouais. Et puis, effectivement, le télétravail, à mon sens, devrait être conditionné au fait d'avoir la place pour le faire.
Voilà, et vous me disiez, justement, c'était très intéressant en préparant cette émission, qu'il y a des sociétés qui réfléchissent, pour pérenniser le télétravail, à augmenter les salaires de leurs employés pour qu'ils puissent se payer un bureau, quoi, en gros, une pièce supplémentaire.
Exact, c'est mon ami et collègue de Londres qui m'a expliqué ça. Il m'a dit qu'il y a des sociétés clientes à lui qui sont en train de réfléchir à augmenter le salaire de leurs collaborateurs pour qu'ils puissent se payer une pièce supplémentaire parce que le mètre carré privé est moins cher que le mètre carré professionnel. Mais attention, il y a anguille sur roche là, parce que le jour où vous êtes viré, bah, vous êtes avec les charges fixes, là, il n'y a plus personne pour vous aider.
Oui, donc c'est un peu risqué.
Par contre, vous n'avez plus la
location. Ouais, c'est ça.
Je trouve ça dangereux, ouais.
Ouais. Jimmy ?
Sur le long terme, est-ce que de travailler dans de mauvaises conditions, enfin en télétravail, peut avoir de vraies conséquences sur la santé physique ?
À mon sens, totalement, oui. J'allais dire, tous les risques que vous observez sur un lieu de travail, c'est-à-dire au bureau, mal assis, mal, etc., qui résultent dans des pathologies dorsales notamment, des pathologies de nuque et d'épaule aussi, elles ne sont pas spécifiquement créées par le fait que vous êtes au bureau, elles sont spécifiquement créées par ce que vous faites avec votre corps. Et vous pouvez faire aussi mal avec votre corps au travail qu'à la maison, d'autant qu'à la maison, il y a une couche d'un stress différent qui s'ajoute en termes d'organisation, en termes de gestion des enfants, le cas échéant, enfin, ce que tout le monde a vécu les trois derniers mois.
Pour terminer, vous me disiez en préparant cette émission que les salariés qui restent en télétravail puissent rester en télétravail sans souffrir, il faut aussi que les entreprises revoient leurs bonnes pratiques managériales. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'en fait, les cadres sont au cœur du débat là. Ils sont souvent aussi victimes d'ailleurs de stress important. Mais je vais vous donner deux exemples. Si un cadre demande, parce qu'il a peur de perdre le contrôle des rapports hebdomadaires sur ce que font ses collaborateurs, bon, ok, il peut suivre. Mais s'il leur demande de faire ça par mail, alors qu'il sait très bien que les gens sont dans des moins bonnes conditions, il augmente la durée d'exposition aux conditions qui sont sous optimum. Mmh. Et donc ça, c'est un premier problème. Je vous donne un deuxième exemple. Si du fait que vous demandez aux gens d'être très réactifs par mail, vous pouvez être sûr qu'une fois sur deux, ils vont répondre depuis leur smartphone. Et à nouveau, vous promouvez le travail et les durées prolongées dans des conditions qui sont peu ergonomiques. Donc dans la façon de gérer les employés à distance, il y a un énorme travail culturel et de formation à mener que peu ont mené jusqu'ici.
Mmh. Olivier Girard, on va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous, reviens dans un instant. Nous allons parler de l'art de la posture aujourd'hui. Bien se tenir, bien s'asseoir, c'est important pour éviter certains maux de dos ou de nuque. Mais qu'en est-il en vacances? Comment éviter d'avoir mal au dos quand on conduit pendant des heures, par exemple? Ou comment bien dormir sans se faire mal quand on n'est pas dans son lit habituel? On vous en dit plus juste après. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Avec nous toujours en ligne, c'est vous Olivier Girard. Vous êtes ergonome et posturologue. Vous êtes aussi l'auteur de Plein le dos, le manuel de la posture publié aux éditions Favre. À présent, on va prendre la route des vacances avec vous. On s'est dit, bon, le télétravail, le coronavirus, on vient d'en parler là, c'est bon, on a envie de passer à autre chose. Donc on va parler un petit peu des vacances, même si les vacances, c'est pas tout de suite, mais bon, dans quelques semaines, on va dire. Quand on est en vacances, on se détend, on se repose, mais souvent, pour se rendre sur son lieu de vacances, d'abord, il y a ce petit passage obligé de se taper quelques heures de voiture, d'avion, de train. Parfois, ben, on finit notamment après, je sais pas, 8 heures de route de voiture. On a mal partout. Comment on peut faire, notamment, quelles sont les règles, on va dire, en matière de posture quand on doit aborder un long voyage en voiture?
Ce qui est super avec la posture, c'est que quand vous avez compris comment ça marche partout de la même façon. C'est-à-dire qu'en voiture et en avion et en train, l'idée, c'est toujours de stabiliser le bassin sur les ischions contre le support lombaire. Pour faire simple, l'idée du réglage de voiture.
Je vous arrête deux minutes parce qu'à chaque fois que vous le dites, moi je me remets bien parce que je suis une bonne élève, j'écoute. Et Jimmy, il en a rien à faire. Il est abasourdi sur sa chaise. Donc vous voyez, moi je suis hyper. Je vous écoute. Moi je suis en train de me redresser, je me mets bien et Jimmy, il est toujours assis sur une fesse. Donc les deux fesses. Alors, allez-y, continuez.
Alors, je disais, je viens de vous faire une page. Si vous allez sur europe1.oliviergirard.ch, je vous ai mis tout ce qu'on vient de raconter sur le télétravail. Génial. Et réglage du siège de voiture.
Parfait,
donc,
super.
europe1.oliviergirard.ch, ça c'est fait. Donc vous réglez votre siège de voiture proprement. Et puis ensuite, si vous voulez, les règles, c'est les mêmes. C'est qu'au bout d'une demi-heure, on observe un phénomène de compression dans le bas du dos. S'arrêter toutes les demi-heures sur l'autoroute, c'est un petit peu difficile. Mais on va essayer de faire des pauses quand même fréquentes. J'allais dire toutes les deux heures, c'est vraiment un minimum syndical. Et puis comme vous savez que vous venez de vous compresser le dos, il va falloir le décompresser. En vous penchant gentiment vers l'avant, l'exercice est aussi en ligne.
D'accord, dis-moi.
Donc ça, c'est en voiture.
Et en avion, parce que souvent, on finit par un vol, par un mal de cou horrible. On oublie toujours de prendre les cale-coups. Est-ce qu'il faut d'ailleurs les prendre, vous savez, ces trucs-là, en forme de U qu'on met au niveau de la nuque, qui nous donnent l'illusion d'être confortable?
C'est pas facile d'en trouver un bien, hein. Il n'empêche pas vraiment de tordre la nuque. Et puis si par malheur, en plus, vous avez la bouche de clim sur la nuque, vous avez la totale et vous sortez avec un torticolis. Donc c'est vrai que la seule façon dont j'ai réussi à trouver pour dormir en avion, c'est de dormir un petit peu vers l'avant. Vous savez, je mets les coudes sur la tablette et puis je dors la main dans mes mains, donc vers l'avant. Et puis j'ai un morceau d'antidérapant avec moi toujours dans l'avion, c'est le truc que vous mettez sous les tapis pour pas glisser. Ça permet de stabiliser le bassin dans des sièges qui sont comme ci, comme ça souvent.
Ah, pas besoin de coussin finalement, un petit morceau d'antidérapant et c'est réglé, on dort bien.
Le coussin c'est derrière la ceinture, l'antidérapant c'est sous les fesses.
D'accord.
Et puis,
Vous avez compris Jimmy, vous prenez un petit bout d'antidérapant.
Ah oui, c'est le MacGyver du voyage.
Carrément.
Alors Olivier Girard, quand on arrive sur son lieu de vacances, il y a aussi la corvée des bagages qu'il faut sortir du coffre, etc. Ça c'est, on va dire, ça valable aussi quand on porte les courses, etc. Comment on porte quelque chose, une charge lourde, sans se faire mal? C'est quoi la règle?
La règle, c'est moins tu portes, mieux tu te portes. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'en fait, il faut essayer autant que possible de transférer le poids sur le châssis de la voiture, c'est-à-dire glisser la valise en dehors du coffre plutôt qu'aller la chercher à bout de bras et la soulever depuis le fond du coffre, etc.
Tout ce moi, que je porte pas, c'est mon mari qui fait ça, donc voilà. J'ai réglé le problème.
C'est-à-dire tout ce que vous donnez à la voiture ou au mari, c'est autant qu'arrive pas sur votre dos. Donc c'est ça la logique, il y a plusieurs postures, je vais vous les mettre en ligne aussi, mais de port de charge, mais grosso modo, la philosophie de base, c'est moins tu portes, mieux tu te portes, ne porte pas des trucs alors que tu pourrais les rouler, les glisser, les basculer.
Jimmy.
Moins tu portes, mieux tu te portes. Mais parfois, il faut porter les enfants quand même. Et souvent, ils ont un peu la flemme de marcher.
Il en a trois petits, lui. Alors
oui,
c'est
donc
quoi,
il y a forcément un qu'il va falloir porter au bout d'un moment. Est-ce qu'il y a une bonne technique, justement, pour porter les enfants ou on peut y aller un peu à la one again, comme on fait toute l'année?
Ben, si vous voulez, quand vous avez un poids devant vous, votre réaction, elle va être de mettre quelque chose derrière, d'habitude vos épaules, pour équilibrer. Et donc, vous allez creuser le dos, vous allez vous faire mal. Donc, mon conseil, en fonction de l'âge de l'enfant, il est tenter quand même le truc de le mettre sur les épaules.
Ah, j'allais vous demander.
C'est pas si mal.
Moi, ça me fait très mal au cou quand je fais ça, donc j'aime pas trop sur les épaules, mais bon...
C'est peut-être que le petit, il est trop osseux, il faut le nourrir.
Je sais pas. Trop ça dans ta tête. D'accord, ok. Donc, les épaules, ok, c'est mieux que de le porter longtemps sur, à bout de bras, en tout cas.
Et puis, évidemment, toutes les sangles, etc., qu'on a pour les tout-petits, vous savez, ça, oui, c'est bien. La question, elle se pose plus quand il commence à être un petit peu lourd, 2-3 ans, vous voyez.
Quand on part en vacances, il y a aussi le problème du lit, de dormir, on va terminer sur ça. On n'est pas dans son lit, moi, je dors bien que chez moi, hein, donc ça, c'est clair. Comment on fait? Je crois qu'il faut s'aider des oreillers quand on n'est pas chez soi pour bien dormir et pas avoir mal partout, que le matelas nous casse le dos.
Il faut la jouer un petit peu modeste là-dessus. Hein. C'est mon métier et pourtant je me suis aussi cassé le dos dans des... On ne choisit pas forcément toujours bien son matelas. Donc là, je ne vais pas faire le malin. Mais si vous voulez, quand c'est possible, et parce que notamment on va en voiture, je trouve que c'est quand même pas mal de réussir à embarquer son oreiller avec soi. C'est un facteur de confort qui est important. Donc si on a la place, c'est une bonne chose. Et puis sinon, c'est vrai que essayez au moins de réveiller votre dos, vous faites des exercices à quatre pattes, etc., quand vous vous levez le matin, pour que si vous soyez un petit peu ready la nuit, que au moins vous trimballiez pas cette raideur sur la journée.
C'est toutes ça les vacances, ouais.
Mais il faut rester un petit peu modeste là-dessus.
Une dernière question.
Je vous livre un peu de ma vie personnelle, je sais qu'elle passionne la foule. Je dors sur le ventre, c'est la position préférée. Je crois que c'est pas terrible pour dormir, c'est ça, hein, c'est pas bien.
C'est très mal, ça creuse le dos et ça tord la nuque. Parce que creuser le bas du dos, donc là c'est automatique. Puis la nuque, elle est tordue parce qu'il faut bien respirer. Et donc, vous êtes obligé de dormir la joue sur le bras. Et donc, ça creuse. Le conseil que je peux vous donner, c'est essayer de vous endormir avec un deuxième oreiller dans les bras. Et vous verrez que...
Comme un oreiller d'allaitement un peu, hein, c'est ça aussi, ça peut être bien,
alors
ça.
Là, ça va, c'est cool, mais c'est mauvais pour la paix du couple parce que ça prend beaucoup de place. Donc, essayez un oreiller normal. Et puis, vous verrez qu'au lieu de dormir complètement à plat, vous allez dormir avec une épaule décollée. Donc, vous allez dormir à un angle de 20-30 degrés ou quoi. Et ça, ça peut quand même vous soulager dos et nuque.
Merci beaucoup Olivier Girard d'avoir accepté notre invitation et merci pour vos conseils. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle une dernière fois le titre de votre livre, Plein le dos, le manuel de la posture publié aux éditions Favre. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission Santé revient. Ce sera le vrai faux avec le docteur Jimmy Mohamed. Nous allons répondre à vos questions santé-bien-être, celles que vous nous laissez sur notre répondeur au 3921. On revient très vite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Tout de suite, on retrouve votre vrai faux, vos questions santé bien-être au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première question, c'est celle de Joanne.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Ma soeur vient d'accoucher et son bébé a eu la jaunisse. Est-ce que c'est grave ou pas? Et de quoi viendrait le problème? Merci beaucoup.
Alors Jimmy, un bébé qui a la jaunisse dès la naissance ou dans les quelques jours qui suivent, c'est dû à quoi? C'est vraiment un bébé qui est tout jaune? Expliquez-nous.
Ouais, c'est ce qu'on appelle l'ictère, c'est la coloration jaune de la peau et des conjonctives. Alors c'est possible physiologiquement, c'est lié à une augmentation de la bilirubine, donc de façon transitoire. Et ça peut s'expliquer de plusieurs façons. La première, c'est que chez les nouveau-nés, il y a une production plus importante de bilirubine, qui est 2 à 3 fois plus importante.
C'est quoi la bilirubine?
La bilirubine, c'est le produit, ce qu'on trouve dans la vésicule biliaire, et en gros, c'est le produit de dégradation de l'hème, c'est l'hémoglobine qui se dégrade au niveau de la rate. Donc on a une production de bilirubine qui est plus importante. On a aussi une immaturité du système hépatique, et du coup, on a moins de dégradation de la bilirubine. Et puis, vous avez une flore bactérienne qui est plus pauvre chez les nouveau-nés, qui fait que vous avez plus de cycles entéro-hépatiques. En gros, ça se renouvelle plus souvent. Et à ce moment-là, on a parfois des bébés qui ont la jaunisse et à la maternité, on dit qu'on les flash avec un petit bilirubine transcutané. On prend un petit pistolet, ça nous donne un chiffre. En cas de doute, on fait une prise de sang pour confirmer ça et on reporte cette valeur sur une courbe puisque la bilirubine évolue en fonction de l'âge de l'enfant et donc on a des critères et à ce moment-là, si jamais il y a quelque chose, parfois on traite, mais dans l'immense majorité des cas, c'est bénin.
On va rassurer Joanne tout de suite, la jaunisse c'est quelque chose de très fréquent chez les bébés, non? Il n'y a rien d'inquiétant a priori, peut-être pas dans tous les cas, mais...
Exactement, alors c'est très fréquent. ans, c'est 65 à 70% des nouveau-nés. Il y a quelques critères qui nous permettent de dire que c'est rassurant et surtout quelques critères qui peuvent vous inquiéter. Le premier, c'est quand l'ictère, la jaunisse, survient de façon prématurée dans les 24 heures qui suivent la naissance. Quand il y a aussi des signes d'hémolyse, c'est-à-dire que l'hémoglobine qui se détruit avec un enfant qui serait pâle, des signes de cholestase. Cholestase est un obstacle au niveau des voies biliaires avec une urine qui serait foncée et des selles décolorées. Et enfin, lorsque l'ictère dure plus de 10 jours à ce moment-là, on dit qu'il y a un problème, il y a trois urgences à éliminer. Un, c'est l'incompatibilité fœto-maternelle, c'est-à-dire que le groupe sanguin de la maman est différent de celui du bébé, soit dans le système ABO, les groupes sanguins, soit le système rhésus, soit il peut y avoir une infection materno-fœtale, ça peut être lié au CMV ou à un Escherichia coli, soit il peut y avoir ce qu'on a dit tout à l'heure, un obstacle avec parfois une atrésie des voies biliaires, et donc c'est les trois urgences qu'il faut éliminer, mais ça reste heureusement très rare.
Très rapidement, Jimmy, parce qu'on voudrait prendre une deuxième question. En général, ça passe tout seul, on est d'accord?
Oui, ça passe tout seul, il n'y a pas de traitement. Et quand il y a un traitement, c'est la photothérapie. En gros, c'est des rayons lumineux qui permettent la dégradation de la bilirubine en un produit qui sera hydrosoluble, qui peut être éliminé par les reins. Il y a quelques conditions. Il faut mettre des lunettes pour protéger les yeux, mettre une couche pour protéger les organes génitaux et on s'assure qu'il n'y a pas de déshydratation. Et puis, ça rentre dans l'ordre très rapidement.
Merci beaucoup, Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est la question de Corentin.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'ai entendu dire que les chiens étaient capables de détecter des tumeurs, voire même le Covid, tout en reniflant. Et je voulais savoir si c'était tous les chiens, et puis surtout, qu'est-ce qu'ils sentaient pour détecter ça. Merci pour votre réponse, bonne journée, au revoir.
Alors effectivement, il y a des chiens renifleurs de tumeurs, on en avait déjà parlé. Là, pour juste ce qui est du Covid, pour terminer rapidement, Jimmy, effectivement, il y a des expériences en cours, je crois.
Quelques pistes au Royaume-Uni et aussi en France. Et le docteur Dominique Grandjean de l'École nationale de vétérinaire d'Alfortville et de Maison-Alfort, pardon, et du chef, qui est aussi chef vétérinaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, qui tente de relever le défi. En gros, ce vétérinaire entouré d'une équipe de scientifiques, de pompiers, de maîtres chiens, qui réalise un essai sur 7 chiens qui sont déjà formés au dépistage olfactif. Ils vont tenter de démontrer ou pas que le Covid a bien une odeur détectable par ces animaux.
Et là, très rapidement, on va leur faire renifler quoi? Alors, on n'a pas les résultats encore, mais qu'est-ce qu'ils vont renifler, ces chiens?
Des prélèvements de sueur. En gros, on a mis des compresses sous les aisselles de patients Covid qui ont guéri de façon spontanée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu besoin d'être hospitalisés pour éviter une interaction avec des médicaments. Et on fait renifler aux chiens cette odeur pour les entraîner ensuite à dépister une éventuelle trace de coronavirus de façon olfactive dans la population générale et dans des zones bondées comme des gares. Bien évidemment qu'on en est encore très loin, mais c'est une piste qui est plutôt intéressante.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Corentin qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, on va retrouver Catherine Blanc et sa chronique sexo, comme tous les jours à la fin de cette émission. Avec elle aujourd'hui, il sera question de fantasmes au masculin qui posent parfois question aux femmes. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints, comme tous les jours, par Catherine Blanc. Catherine Blanc, un studio avec nous. Catherine Blanc, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui,
il se tient très bien, Jimmy. Qu'est-ce que vous dites?
Mais non, il est toujours sur une fesse. On vient de faire une émission sur la posture.
Il se tient toujours aussi mal. Il se porte très bien.
Ouais. Et vous avez la fesse intéressante. Vous avez la fesse intéressante. Que voulez-vous?
On va pas déraper tout de suite. Alors, on va prendre.
Jamais même.
On va prendre la question de Clémentine, qui a 32 ans et qui nous a écrit la chose suivante. Écoutez bien, Catherine. L'autre soir, j'ai posé la question à mon copain s'il aimerait faire un plan à trois, juste par curiosité. Il m'a répondu oui, mais seulement si la troisième personne est une femme. Cela ne m'a pas étonnée. Pourquoi les hommes fantasment-ils autant d'avoir deux femmes au lit pour eux? Catherine, c'est vrai que c'est une bonne question. Pourquoi les hommes, ils préfèrent toujours qu'on leur propose un plan à trois? Enfin, moi, je parle comme ça en général, évidemment, avec une autre femme et pas un autre homme, parce qu'à trois, on peut multiplier les possibilités.
Bien sûr, ça ne veut pas dire que tout le monde va aller dans ce sens, mais c'est généralement, en effet, dans l'idée plutôt de
femmes. Dans l'idée, voilà, c'est ça que je voulais dire.
C'est l'idée de deux femmes est plus séduisante la plupart du temps, tout simplement parce qu'il n'y a pas de concurrence. Mmh. Et il y a le super-héros, c'est-à-dire que deux femmes qui se disputent mon corps et mon sexe, vous pensez bien que c'est le fantasme merveilleux ultime. Simplement, évidemment, il ne faut pas être angoissé à l'idée de devoir subvenir aux besoins de l'une et de l'autre. Mais dans l'idée, toujours, il y a une idée de toute puissance formidable qui préfère cela que la comparaison avec un autre corps, avec un autre pénis, avec une autre compétence, et peut-être aussi être dérangé par une connotation qui pourrait laisser penser à une homosexualité qu'il ne faudrait pas révéler, le cas échéant.
Jimmy.
Mais pourquoi vouloir deux femmes? Faudrait peut-être déjà en satisfaire une correctement.
Et ah, puis, je vous reconnais.
De fantasme, là, oui, mais vous parlez aussi de sentiments de pour, comment dire, satisfaire la femme. Mais sauf erreur de ma part, l'homme n'a qu'un seul sexe, et donc il ne pourra pas satisfaire les deux. Et donc est-ce que ce n'est pas aussi une forme, pas d'arrogance, mais de sentiment de toute-puissance, d'un délire d'adolescent ou...
Ah, complètement. Bien sûr qu'il y a de la toute-puissance, mais dans la sexualité, il y a de la toute-puissance. Il y a du fantasme de toute-puissance. Et ce qui permet aussi, d'ailleurs, vous dites très bien, au lieu de satisfaire l'une, d'une certaine manière, passer de l'une à l'autre, c'est avoir aussi l'excuse de ne pas avoir abouti quelque chose avec la première. Donc, d'une certaine manière, c'est jouer au tout-puissant, désiré par toutes, pouvant courant de droite à gauche, ne pouvant pas terminer, bien sûr, parce que de droite et de gauche, ce qui permet évidemment que l'arrogance de la toute-puissance. Mais dans nos fantasmes, nous avons beaucoup d'arrogance. Hein. C'est quand on réfléchit les choses aussi joliment que ce que vous dites pour une relation. Mais sinon, dans nos fantasmes, ça va un petit peu dans le sens très narcissique individuel.
Vous parliez de peur de la comparaison, si c'était donc un plan à trois avec deux hommes et une femme. C'est aussi peut-être la peur que la femme, elle préfère l'autre, quoi, non ?
C'est ça, mais la comparaison, c'est ou de se comparer avec l'autre, ou via l'autre, être comparé en sentant que finalement, il se joue quelque chose. Alors, certains vont aimer parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du voyeurisme, mais il y a aussi l'idée qu'on pourrait perdre le lien avec son partenaire. Ceci étant, la personne qui pose la question, elle pose évidemment la question pour voir si elle est potentiellement en danger et si son compagnon pourrait avoir envie d'une autre femme qu'elle. Mais c'est aussi une façon d'introduire son propre désir d'éventuellement...
Parce que c'est elle qui pose la question au départ, apparemment.
C'est ça. Ouais. Donc, ou c'est parce qu'elle veut voir si son homme... Mais non, ma chérie, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Voilà, donc là, elle est au moins fixée sur ce sujet sans être manifestement très, très étonnée. Ou c'était une façon pour elle d'évoquer la possibilité d'avoir envie d'aller voir ailleurs, mais cautionnée par l'autorisation de son partenaire.
Jimmy ?
Donc, on a bien compris qu'un homme préfère, dans un monde possible, ou enfin parfait, avoir une relation avec deux femmes. Est-ce qu'inversement, une femme préférerait avoir une relation avec deux hommes, ou peut-être c'est un peu plus pondéré que ça, et elle accepterait qu'il y ait une femme supplémentaire ?
Je pense que les femmes sont comme les hommes. Dans leur délire de toute puissance, elles sont aussi avec l'envie d'avoir deux hommes, de satisfaire deux hommes, d'être désirées par deux hommes, d'être disputées par deux hommes. Ceci étant, évidemment, après, tout dépend de la formule, ça peut être aussi très anxiogène. C'est-à-dire que si c'est pour être receveuse et non pas désirée, mais receveuse de tous les fantasmes, c'est peut-être plutôt angoissant. Alors que dans une présence féminine, il y a quelque chose de l'ordre du câlin, de la douceur, du voyeurisme aussi qui est satisfait. Mais encore une fois, la possibilité de se comparer et de souffrir de cette comparaison.
Puisqu'on parle de fantasme une nouvelle fois aujourd'hui, Catherine, on est d'accord, fantasme, ça ne veut pas dire qu'il faut le réaliser. De toute façon, là, elle a posé la question, mais parfois, c'est le risque, c'est surtout de se brûler les ailes. Non, là, vaut mieux que ça reste un fantasme pour tout le monde, peut-être.
Mais c'est-à-dire que tout fantasme, d'abord, on a le droit, on fantasme des trucs très tordus, d'ailleurs, hein, souvent, qu'on les exprime, que ça nous amuse, que ça nous excite, qu'on ne se sente pas jugé, tout ça est une très bonne chose. Après, les vivre, il faut s'assurer qu'on est bien au diapason de cette liberté, qu'on est prêt à toujours dire stop, le cas échéant, quand on ne se sent plus de cet élan-là, parce qu'en effet, on peut se brûler les ailes et on peut avoir le sentiment que l'autre, tout d'un coup, on a ouvert une brèche et que la relation s'est du coup fragilisée. Donc c'est toujours avec vigilance. Tous les fantasmes ne sont en effet pas bons à être vécus. Voilà, chaque chose en son temps et avec prudence pour soi-même.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans 100 rendez-vous, nous allons évoquer un trouble qui touche beaucoup d'enfants, la dyslexie. Tout de suite, place à Mathieu Noël et à son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Vous qui avez des enfants, ça va vous parler. Les cahiers d'Esther, tome 5, histoire de mes 14 ans. Riyad Satouf, le roi français de la bande dessinée, sera avec nous dans l'équipe sauvage. Restez bien à l'écoute.
Merci beaucoup Mathieu. Beau programme, on sera à l'écoute évidemment, et vous aussi surtout, restez sur Europe 1.